Paranormal, pas normal. Et si on en parlait ?
Ah oui, ici on en parlait avec vous-même, les amis. Nous sommes en compagnie de Brice Delagneau, le président de l'ONG Amistad, ONG qui intervient dans le cadre du développement durable. Aujourd'hui, il prend son bâton de pèlerin pour convaincre les uns et les autres, notamment nos compatriotes, de l'importance du développement durable, l'importance donc de mieux protéger notre environnement, d'en faire un atout pour les générations futures. Il est tout jeune, il en parle avec nous.
C'est ça,
et puis nous, on décide comme ça de vous ouvrir la possibilité à travers le 27 225 49 880. D'intervenir, de vous prononcer. Est-ce que vous êtes des adeptes du développement durable ? Chaque acte que vous posez est une garantie pour la ville durable en Afrique où tout est foutu.
Et
ben voilà, on se dit, ben voilà, personne s'en fout. L'autre, Brice Delagneau, il crie dans le désert. Est-ce que vous vous dites, non, écoutez, faut pas exagérer. Hein, voilà, on écoute tout ça. On essaie de voir comment on peut transformer tout ça en atout pour faire de notre ville une ville où il fait bon vivre.
André, tu mentionnais tantôt des gestes simples du quotidien qui pourraient donc contribuer justement à développer, sinon à asseoir la question de la ville durable. Et moi, j'ai vu sur les réseaux, par exemple, où des gens disaient, tiens, monsieur, quand vous avez, je sais pas moi, un sachet de bonbons ou un sachet quelconque dans la main, et que vous cherchez une poubelle pour l'y jeter, voilà comment vous contribuez justement à ce que l'environnement soit de plus agréable, que l'environnement aussi soit de plus adéquat ce matin.
Il y a beaucoup qui vont vous dire non, il n'y a pas de poubelle dans la ville, je vous rappelle qu'à Rome, il n'y a pas de poubelle chaque deux minutes.
Ça, c'est pas non plus qui est à Rome.
Même pas à Rome, enfin, nulle part ailleurs, il existe une rue où il y a des poubelles. Enfin, moi, je suis dans une voiture, et il y a quelqu'un qui descend sa vitre, elle est dans, enfin, justement, les grosses cylindrées de monsieur de Perpignan.
Ouais.
Il descend sa vitre et il balance son sachet d'arachide.
Bah, voilà.
Voilà. Donc ça, c'est pas une question de poubelle, c'est une question de bonne pratique.
Déjà.
De savoir faire les choses.
Voilà.
Je vais pas être méchant, sinon je dirais de savoir vivre.
Oui,
on garde son sachet
c'est
avec
exactement ça.
Et quand on descend, on trouve une poubelle, on va jeter son papier.
C'est assez simple. Ça doit être une question de réflexe, en fait. C'est très simple. Vous, chez vous, par exemple, dans votre salon, vous ne jeteriez pas, de la nourriture comme ça ou des sachets comme ça.
Ça dépend.
Chez vous, vous êtes très propre.
Ça va dépendre, donc, monsieur, de pas bien.
Non, ça dépend. Si tu n'as pas envie de bouger de ton canapé, tu jettes
tranquillement au salon.
Moi, je pense que le mieux, monsieur Delagneau, il faut supprimer tous les entreprises qui fabriquent des sachets. Parce que si on fait beaucoup de produits, ça ne sert à rien.
Alors, il faut dire en tant que société civile, justement, c'est monsieur de Perpignan qui le dit comme ça, le humoriste, c'est un vrai sujet, la question des sachets plastiques.
Oui, sur la question des sachets
plastiques. Il y a une loi en Côte d'Ivoire, justement, là-dessus.
Ben, il faut dire que le gouvernement a échoué sur la question, parce que
le temps que vous répondiez, de la même auditeur qui est avec nous, bonjour.
Ah,
il est parti.
Je pense que je voulais juste tester.
Vous voulez tester sa ligne, mais un jour, sur votre ligne marche très bien. Alors, on va revenir. Vous nous dites que le gouvernement a échoué sur la question du sachet plastique.
Oui, parce que le gouvernement a reculé deux fois. La première fois, quand la loi a été prise.
Ok.
Après, il y a eu une prolongation. Mais aujourd'hui, vous partez à Abidjan. Même quand on fait les opérations grand ménage. Mais allez-y, regardez. Le ministère distribue de l'eau en sachet.
Voilà.
C'est pour ça que j'ai dit que le gouvernement il a échoué.
Ouais.
Parce que vous ne pouvez pas essayer de supprimer quelque chose quand vous n'avez pas d'alternative. C'est pas possible. On supprime parce que on a préparé déjà les industriels à changer les machines. Ensuite, leur permet d'avoir les intrants pour fabriquer tout ce qu'il y a comme alternative. On supprime parce qu'on a préparé déjà la reconversion de tous ceux qui travaillent dans le secteur
des sachets.
Et donc, les trois piliers de développement durable, c'est le seul pilier environnemental qui a été respecté. On dit on supprime les sachets pour protéger l'environnement. Mais est-ce qu'on a protégé donc l'aspect social avec le travail,
etc.
Est-ce qu'on a regardé l'aspect économique en permettant, en subventionnant les industriels? Non. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on ne peut,
mais
ne
en
peut
même
pas
temps,
dire.
Est-ce que suivre non, justement vois. Cette voie-là, est-ce que c'est aisé tout ça? Parce que ça implique beaucoup de choses à la fois, en fait. C'est-à-dire, c'est de casser toute une chaîne qui existe depuis des générations, sinon depuis des centaines d'années et tout. C'est de casser ça juste pour respecter justement une certaine norme environnementale.
Justement, pour ajouter à ce que Gérard a dit, beaucoup parlent justement d'une sorte de d'anti-progrès qui serait lié à l'environnement, quoi.
Ce n'est pas une question d'anti-progrès, c'est vrai. Chacun y va selon sa façon de comprendre. Mais il faut dire que nos dirigeants, nos ministres aiment trop faire les choses de façon politique.
Okay.
Vous comprenez? On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, parce que c'était quoi le souci? Il y a le ministre qui voulait que ce soit, on dise que c'est lui qui a interdit les sacs plastiques en Côte d'Ivoire. Et nous, on a fait le plaidoyer pour leur dire, écoutez, messieurs, voici comment est-ce qu'il faut progresser. Il faut sensibiliser les gens, il faut les emmener à comprendre, il faut essayer de mettre en place On ne change pas quelque chose, on ne change pas des habitudes qui sont en nous depuis des années. Non, c'est pas possible. Moi, je vous prends un exemple. Sur la question de la bouillie, la bouillie, le coco baka que nous buvons, la bouillie de mille, si c'est dans les sachets qu'on les met. Mais quand on supprime les sachets, par contre, on remplace le contenant. C'est ça le problème.
Est-ce que le coût n'est pas élevé à ce niveau quand on supprime les sachets?
Oui, oui, quand on supprime, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut trouver l'alternative. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous arrivez dans les pays qui ont décidé de supprimer les sachets, c'est parce qu'on a donné les moyens aux industriels, par exemple, de fabriquer tout ce qu'il y a comme emballage en papier.
Comme des gobelets en carton. Et je venais même, j'allais en venir par rapport à ce que vous entendez dire maintenant. Du coup, je me demande, c'est quoi la pertinence de votre initiative, en fait? Alors, quand on voit la réalité aujourd'hui des Ivoiriens, je prends un citoyen lambda qui est là, il s'élève le matin, il a besoin de ses 3 repas par jour, on lui parle de sachets plastiques.
Alors nous, la pertinence de notre action, c'est d'abord d'amener d'abord les décideurs à comprendre qu'on ne peut pas suivre le développement quand on ne tient pas compte de nos réalités. Voilà. Parce que moi, j'ai toujours dit que moi, je ne fais pas du développement durable un système de copier-coller où on regarde l'Occident et on vient, on copie tout ce qu'on prend. On regarde nos réalités. Parce que l'objectif derrière, c'est de protéger les ressources naturelles, accorder le bien-être aux populations et créer de la richesse. Donc, quand vous avez ces 3 éléments qui sont réunis, vous regardez dans votre contexte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que chez moi aujourd'hui, je suis capable, par exemple, de subventionner des goods qui sont réutilisables? Si je ne peux pas le faire, pourquoi est-ce que j'interdirais donc l'utilisation du plastique? Et quand on parle d'utilisation du plastique,
si ce n'est pour faire l'intéressant.
Si ce n'est pour faire l'intéressant. Parce que après aussi, quand vous prenez des engagements au niveau international, quand vous revenez, il faut faire les réformes. Mais les réformes ne suivent pas. Aujourd'hui, on demande aux gens, par exemple, de planter des arbres. On nous dit planter 1 million d'arbres. Mais attendez, dites-moi quelque chose. La fiscalité environnementale, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce qu'une entreprise irait planter des arbres au lieu d'aller soutenir, par exemple, un club de football ou bien soutenir un concert? Mais c'est parce qu'on ne les incite pas. Et si on les incite aujourd'hui en disant, si vous mettez en place une politique RSE, vous allez avoir, par exemple, un crédit d'impôt de tel montant, mais ça va l'encourager. Donc, on décide de supprimer des choses, mais on ne fait pas de réformes. Et c'est pour ça que nous, on organise donc ces rencontres pour amener les acteurs à discuter, pour leur dire, voilà ce qu'on veut faire. Mais qu'est-ce que chacun peut faire à son niveau? Donc, aujourd'hui, il faut qu'on arrête de penser que le développement, tu vois, c'est la panacée. Ce n'est pas la panacée. Mais il faut qu'on ait des réformes
profondes. Très bien, en tous les cas, on entend bien, vous êtes Brice Delagneau, nous sommes avec vous dans le cadre donc, de cette émission Life Matin. Nous parlons d'environnement, de développement durable, pour dire que ce ne sont pas des choses toutes faites, il faut l'implication des uns et des autres, mais surtout, il faut des gens qui connaissent les sujets, et c'est de cela que vous êtes en train de nous parler. Donc sur la question, par exemple, de l'environnement, vous trouvez qu'on a un gros déficit, c'est la question de la fiscalité. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on utilise la fiscalité pour promouvoir l'environnement? Vous dites, ça reste très problématique.
Oui, alors il faut savoir qu'il y a, une nouvelle loi sur l'environnement qui va sortir. Alors nous avons fait mains et pieds pour faire partie donc du comité de réflexion. Malheureusement, nous n'avons pas pu accéder. On ne sait pas pour quelle raison. On attend que ça sorte pour voir. On a par exemple, je crois, un projet de loi sur l'hygiène, donc sur la salubrité aussi. Bon, on attend de voir ce que ça va donner. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est toujours bon de prendre des lois, de prendre des décrets, mais il faut vraiment voir les réformes qui vont avec. Je vous donne un exemple. Vous avez une loi sur la gestion du littoral, qui date de 2018, je crois.
C'est une belle loi d'ailleurs.
C'est une belle loi, mais qui n'a pas de décret d'application. Vous avez une loi, par exemple, sur le code forestier, qui date de 2019, mais qui n'a pas de décret d'application.
Mais si Dom Vahy n'est plus là.
L'administration, c'est une continuité. C'est une continuité. Donc, c'est pour vous dire qu'on prend beaucoup de lois, mais ça ne suit pas. Et ça fragilise toutes les initiatives. Ça fragilise tous les élans. Et ça, nous pensons que ce plaidoyer-là, nous le faisons à travers les rencontres. Et c'est pourquoi nous pensons également que les populations doivent aussi pousser de leur côté.
Puisqu'on parle des populations, vous avez encore la possibilité d'intervenir. On a eu un petit souci technique tout à l'heure. Si on a une minute de propos avec quelqu'un veut se prononcer sur le sujet qui est quand même très très important. On en débat avec vous ce matin. 27 225 49 880. N'hésitez pas, si vous voulez intervenir, pour donner votre avis. Vous êtes en compagnie donc de Brice Delagneau de l'ONG Amistad, qui milite, qui se bat, qui fait des plaidoyers donc auprès des autorités pour que nous puissions ensemble mieux appréhender la question donc du développement durable. En fait, une fois qu'on l'a dit, tout ça c'est bien beau, etc. Nous, la question, on l'avait posée. Faut qu'on revienne là-dessus pour savoir si ça tient toujours. Est-ce que c'est peine perdue? Vous pensez qu'il y a encore beaucoup d'espoir? Nous avons beaucoup d'énergie pour faire de nos villes vraiment de vrais laboratoires de développement durable.
Oui, moi je crois, et l'une des des preuves de ce que je vous dis, c'est que lorsqu'il y a eu l'affaire d'Alia Fleur, l'ONG Amistad a sollicité une audience auprès du ministre du Tourisme. Nous n'avons pas encore été reçus. Nous avons sollicité une audience auprès de la commission de l'environnement de l'Assemblée nationale. Nous leur avons fait une analyse de plus de 100 pages pour leur expliquer. Et les députés étaient très heureux de nous recevoir. Oui. Et ils nous ont même exprimé...
Est-ce que vous êtes entré en contact avec le ministère de l'Environnement à qui appartient techniquement d'Alia Fleur?
Oui, on a fait un courrier de demande d'audience au ministre de l'Environnement. Nous ne sommes pas encore reçus. Mmh. Mais par contre, nous avons été reçus par le directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves.
Ah oui, d'accord. Le général.
Et parce que nous travaillons sur d'Alia Fleur déjà depuis 2011. Donc, nous étions en phase avec l'OIP, nous étions en phase. Donc, c'est pour dire que le chantier, il est vaste. Il faut former les gens, il faut sensibiliser, il faut expliquer. Et puis après, comprenez que la protection de l'environnement, c'est pas une priorité pour beaucoup de raisons. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent avoir du travail, les gens veulent manger, les gens veulent...
Non, mais on sait qu'ils veulent du travail, mais vous savez, l'environnement, c'est un bassin d'emploi très important.
Bien sûr.
Donc, ça doit être une compréhension de la question de l'environnement. Dans l'environnement, il y a plein de boulot. On parle même simplement le traitement des ordures ménagères. C'est un bassin d'emploi énorme.
Et sur ça, nous, par exemple, on a essayé à plusieurs reprises de rencontrer l'agence emploi jeune pour leur dire, si vous voulez aujourd'hui créer des emplois, mais regardez dans le secteur de l'environnement. Moi, je vais vous donner un exemple. Si vous voulez, par exemple, mettre en place une pépinière de 1000 plants, vous avez besoin d'avoir au minimum 7 personnes qui vont travailler. Ouais. Et quand vous voulez faire un reboisement sur un hectare avec du teck, si vous faites sur 1600 pieds que vous mettez en terre, vous avez besoin d'avoir au moins 5 personnes pour vous faire les élargages, pour vous faire l'entretien pendant 5 ans. Mmh. Vous comprenez? Mmh. C'est pour vous dire que c'est un vrai bassin d'emploi. Malheureusement, on ne sait pas pour quelles raisons les initiatives dans ce domaine ne sont pas soutenues. Mmh. Je vous donne un deuxième exemple.
On vous dit que
la question de la gestion des déchets plastiques, on peut transformer les déchets plastiques en pavés. Mais écoutez-moi, dans toutes les communes d'Abidjan, vous avez des trottoirs qui sont en train d'être aménagés avec des pavés. Mais quel type de pavés? C'est des pavés en ciment qui sont utilisés. Pourquoi est-ce qu'on utilise
ça? Ce qui va être intéressant, c'est des pavés en ciment, mais souvent ça vient de l'extérieur.
Pourquoi ne pas encourager ces jeunes qui ont des initiatives, qui ont des
entreprises,
pour faire donc la production de pavés en plastique?
On va parler avec Hassan Fouch, je crois qu'il va comprendre ça.
Je pense que c'est bien dit, monsieur de Perpignan, pour se mouvoir à Brice. Vraiment, on voit que vous parlez avec beaucoup d'engagement, beaucoup de gens comme ça de Côte d'Ivoire qui sont engagés, qui sont des combattants de la cause environnementale. Nous sommes très heureux de parler avec vous. On souhaite bon vent à ce forum là qui a eu lieu la semaine dernière. On espère que les différentes conclusions vont être adoptées par l'ensemble des partenaires, collectivités locales, ministères, comme population, comme association, afin de faire vivre nos villes différemment. Moi, je vous remercie. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir chaque fois qu'on aura bichoton. On reviendra sur le sujet d'Alia Fleur. On vous invitera à ce sujet afin de bien comprendre toute la problématique liée autour de ce parc de Côte d'Ivoire et qui fait partie justement des beautés de la ville d'Abidjan.
Exactement.
Monsieur de Perpignan, Lina, Gérard Tellman.
Oui, à demain.
On dit tous au revoir à Brice.
Merci d'être passé. À bientôt.
Et quant à nous vous retrouvons demain matin. Merci les amis. Restez toujours live. Dans un instant, c'est Ami qui va s'installer pour live chez vous. Dans la suite, vous entendrez Brice Sano. Et ensuite, il y aura un peu de musique. Econ va s'installer, Willy Dambo et tous les autres. Il y aura donc Eric Landry et sa bande, sans oublier cette nuit à l'oreille qui fait tellement bien que vous entendrez. Merci à tous, portez-vous bien.
Salut.
Ce matin, ce sera demain matin.
Normal, pas normal.
Ouais.
Et si on en parlait? Let's go. Life Radio 107.7. La radio, comme tu l'entends.